Chapitre 41. Les expériences menées avec le venin de l'araignée violoniste montrent que les deux sexes sont capables d'infliger des morsures venimeuses aux mammifères. Tiré de Biology of the Brown Recluse Spider, Julia Maxine Haidt, William J. Gladney, J. L. Lancaster Jr. et W. H. Whitcomb, Service d'entomologie, Département d'agriculture, Université d'Arkansas, Fayetteville, mai 1966. La pluie cessa. Le soleil perça fugitivement avant d'être une nouvelle fois remplacé par la grisaille du crépuscule. D'un commun accord, Rita et le garçon n'allumèrent aucune lampe. Ils montèrent la garde depuis l'abri relatif de la cuisine, plongés dans l'ombre, dînant de fromage et de biscuits salés, d'une gorgée de jus d'orange de temps à autre. Ensemble, ils avaient tant bien que mal traversé la maison avec une vieille armoire pour la caler contre la porte du jardin que Rita percevait comme le point faible de leur ligne de défense. Ensuite, Rita avait descendu de vieux draps et les avait tenus en place pendant que le garçon les punaisait devant les fenêtres du rez-de-chaussée. Elle ne voulait pas que l'homme regarde chez elle, et puis leur mouvement, pris par son attaque. Et au cas où il briserait la vitre, elle espérait que l'enchevêtrement de vieux tissus leur gagnerait de précieuses minutes. 3, 4, elle n'était pas sûre. Et lorsqu'elle fit le tour des pièces avec le garçon, pour renforcer, remanier, elle s'avisa que leur défense, érigée à la hâte et censée empêcher un homme d'entrer, les piégeait inévitablement tous les deux à l'intérieur. Elle n'en parla pas au garçon. Il avait attaché son couteau sur sa cuisse avec un lambeau de tissu arraché à une vieille tête d'oreiller. Elle se disait qu'il se faisait déjà assez de soucis. Elle n'avait pas appelé police secours ni pris la peine de contacter le shérif du coin. Essentiellement parce qu'elle savait que le garçon prendrait ses jambes à son cou plutôt que de parler à des hommes en uniforme. Et puis qu'y avait-il à dire? Le garçon et elle étaient en guerre. Ils connaissaient leur ennemi. Ils savaient quelle bataille devait être menée. Mais concrètement, elle n'avait rien à signaler. Elle n'avait jamais rencontré l'homme qui vivait dans la vieille demeure victorienne. Elle ne lui avait jamais parlé, ne l'avait jamais regardé dans les yeux. Elle craignait à présent que le premier regard qu'elle poserait sur lui ne soit aussi le dernier. Mais elle était forte, elle avait son Colt. Elle se plaisait à croire que le garçon et elle auraient encore le dernier mot. À 5 heures du soir, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'étiraient, elle bâilla ostensiblement. La nuit avait été longue, le jour suivant plus long encore. Elle rêvait de s'allonger sur la causeuse du salon, de reposer ses os fatigués. Il devrait dormir à tour de rôle. N'était-ce pas ce que des sentinelles étaient censées faire? Elle aurait voulu que le fantôme de Joseph puisse parler, parce qu'elle n'avait encore jamais fait la guerre et qu'elle aurait eu besoin de conseils. Le garçon l'observait, attendant de voir ce qu'elle allait faire. « Tu devrais faire un somme, » dit-elle. « Dormir jusqu'à minuit, ensuite il faudra qu'on ouvre l'œil tous les deux. Ça va. Ne dis pas de sottises, mon enfant. Même les soldats se reposent. Qu'est-ce qu'on fera demain si aucun de nous ne dort ce soir? Il va venir, mais il n'est pas encore là. Alors dors, mon enfant, tant que tu peux. » Il fit la tête, mais les arguments de Rita durent lui paraître logiques, ou alors il était encore plus fatigué qu'elle ne l'avait deviné, car il acquiesça à contre-cœur et se traîna vers les escaliers. « Je vais mettre un réveil, » souffla-t-elle derrière lui. « Je te réveille dans 6 heures. »« 3, » répondit-il, buté. « Ensuite, ce sera ton tour. »« 6. À mon âge, on ne dort pas. C'est comme si le corps savait que le repos éternel arrivera bien assez tôt. » Le garçon ne protesta plus. Elle songea que ses épaules étaient plus voûtées que dans son souvenir. Ses pas traînants comme ceux d'un mort-vivant. Il s'attendait au pire, comprit-elle. Tous les soirs, en allant se coucher, il s'attendait à ne jamais se réveiller. Elle se demanda depuis combien de temps cette situation durait. Et même s'il survivait à cette nuit, que signifiait au juste le matin pour un garçon comme lui? Elle se dit que si jamais il choisissait de parler, il raconterait des histoires que Joseph lui-même n'aurait pu imaginer. Et elle aurait voulu être plus jeune, parce que pauvre d'elle, Elle aurait aimé garder cet enfant. Elle l'aurait serré bien fort dans ses bras, lui aurait caressé les cheveux lorsqu'il se serait réveillé en hurlant au milieu de la nuit, lui aurait tenu la main les mauvais jours, quand il n'avait que des souvenirs tragiques et qu'il oubliait qu'il était encore innocent, digne d'être aimé et bon. Qu'il n'était pas responsable des malheurs, qu'il y avait des gens sur cette terre, des gens comme elle, qui étaient fiers de le connaître. Rita n'avait jamais été très portée sur la prière. Dans son monde, quand on voulait quelque chose, on se mettait en situation de l'obtenir. Pourtant, elle priait en cet instant. Parce que la nuit tombait. Parce qu'elle aimait cet enfant. Et parce qu'elle savait tout au fond d'elle-même qu'une femme de presque 90 ans n'avait pas la moindre chance face à un individu comme l'homme de la colline. Le destin venait la prendre. Elle pria pour être forte et plus que tout pour sauver ce garçon. Rita s'assoupit. Ce n'était pas son intention, mais elle avait dû le faire parce que tout à coup, la sonnette retentit et elle se redressa en sursaut, manquant tomber de sa petite chaise en bois à côté de la table de cuisine. Après la sonnette, il y eut de petits coups frappés à la porte. Alors Rita posa ses mains sur la table et se leva tant bien que mal. La curiosité, plus qu'autre chose, la conduisit dans l'entrée, le colt coincé dans la ceinture du vieux pantalon de Joseph, caché sous sa volumineuse chemise à carreaux verts préférée. Le méchant homme aurait-il l'audace de tout bonnement se pointer et frapper à la porte? Tout occupée à ses stratagèmes, peut-être n'avait-elle pas vu la pièce la plus importante du puzzle. Le gamin n'était pas à elle. Et si l'homme se présentait avec des policiers pour exiger qu'elle le rende, elle ne pourrait rien faire. Elle se débattait avec cette idée lorsqu'elle arriva à la porte d'entrée et écarta avec précaution le coin d'un drap tendu pour regarder par la fenêtre de côté. Pas de colosse effrayant en fin de compte, juste la fille du bas de la rue qui mastiquait un morceau de chewing-gum en tenant le gros matou noir du voisin par la peau du cou. Midnight avait dû faire des dégâts dans le jardin de la jeune fille. Peut-être avait-il enterré quelques cadeaux ou mangé son écureuil préféré. Rita ne voyait pas de quoi la fille pouvait se plaindre, étant donné qu'elle vivait dans un mobil-home et que son jardin était essentiellement composé de mauvaises herbes. Rita ne lui avait jamais vraiment parlé. Elle l'avait juste vu aller et venir aux petites heures de la nuit. Elle occupait sans doute Dieu sait quel emploi dans un bar du coin. La fille frappa à nouveau, l'air impatient à présent. Alors Rita commença à pousser les verrous. À peine avait-elle ouvert la porte que la fille lui mit le chat sous le nez. Le chat miaula. La fille le secoua impatiemment. « Il est à vous. »« C'est Midnight, le chat des voisins. »« Si c'est le chat des voisins, qu'est-ce qu'il fout sur votre terrasse ?»« J'ai plutôt l'impression qu'il se sent comme chez lui ici. »« Midnight est un chat, il se sent comme chez lui partout. » La fille fit la moue comme si elle ne la croyait pas. Entra dans la maison, toujours en brandissant le chat. Je vais vous dire, j'en ai jusque-là de ce connard de chat. Si vous tenez un peu à lui, vous feriez mieux de le garder à la maison. Parce que la prochaine fois que je le surprends à creuser dans mon jardin, je lui troue la peau. Pour la dernière fois, Rita. La voix venait de derrière elle, si fluette qu'elle l'entendit à peine. Rita se retourna à moitié, vit le garçon sur le pas de la porte. Et elle comprit en voyant son expression qu'elle avait commis une erreur, une terrible, terrible erreur. « Salut Scott, » dit la fille avec flegme. « Tu as le bonjour du Burgerman. » Elle jeta le chat sur Rita, qui recula et se prit les pieds dans le pantalon trop large de Joseph. L'instant d'après, elle tombait violemment au sol et sa vieille hanche fragile cédait avec un craquement, pendant que Midnight lui labourait l'avant-bras de ses griffes et sautait dans l'entrée. « Cours !» cria-t-elle faiblement au garçon. « Cours !» Le garçon détala. La fille prit le temps de gifler Rita et de sortir une poignée de liens de serrage en plastique. Je m'occuperai bientôt de lui. Elle passa froidement un lien autour des frêles poignets de Rita et serra fort. Ça va vous occuper un peu, mémé. Puis la fille referma violemment la porte d'entrée et se mit en quête du garçon. Rita resta au sol et la douleur de sa hanche se répandit inexorablement dans son corps, la clouant sur place. Elle était incapable de bouger les jambes et les mains. Son premier face-à-face avec le mal, et elle n'avait pas tenu 30 secondes. Elle avait les yeux qui piquaient. Elle crut qu'elle allait pleurer et cela la contraria à tel point qu'elle roula sur le ventre, serra les dents pour lutter contre la douleur étourdissante et se mit à ramper. « Joseph, murmura-t-elle, ne sois pas trop impatient d'avoir mon âme. Aide-moi ce soir, une dernière fois. Ensuite, je ne serai pas longue à te rejoindre. » Chapitre 42. L'évolution des araignées, cependant, a des visées essentiellement meurtrières. Tiré de l'article Spider-Woman, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 mars 2007. Des coups de feu, pleins, dans toutes les directions. Les adjoints du shérif avaient pris peur, et les agents fédéraux peut-être aussi. La plupart avaient dégainé leurs armes et tiraient comme des fous vers les arbres pour essayer de couvrir Sal le temps qu'ils traînent Harold hors de la clairière vers le gros rocher derrière lequel Kimberly, Rainey et Quincy avaient trouvé refuge. Rachel Childs était à 15 mètres de là, accroupie derrière un arbre, Glock dans une main, radio dans l'autre. Elle criait de toutes ses forces. « Officier à terre, officier à terre! Nous essuyons une fusillade, je répète, demandons renfort et assistance médicale immédiate. Je veux des hélicos, les brigades spéciales, la garde nationale, je m'en fous, mais trouvez-moi tout de suite des hélicos militarisés et une évacuation médicale. Nous sommes sur Blood Mountain, demandons assistance immédiate !» Kimberly, le Glock dégainé, encourageait Sal intérieurement tout en scrutant les bois alentour à la recherche d'un tireur. Sal réussit à faire 2 mètres. 3. Un autre coup de fusil retentit au loin. Sal se laissa tomber sur le corps d'Harold, protégeant de ses bras le visage de l'agent à terre, pendant qu'un éclat d'écorce sautait de l'arbre à côté de lui. « Là !» souffla Quincy. « Là-bas, sur la gauche !» Il désigna l'endroit du doigt, et Kimberly ouvrit docilement le feu, ce qui permit à Sal de se relever prestement, d'attraper Harold sous les bras et de le tirer. Il n'y arriverait pas. Un homme traînant un poids mort de 90 kilos sur une telle distance ne pouvait y arriver seul. Il fallait que quelqu'un l'aide. Elle contracta immédiatement ses jambes, prête à jaillir, et là, elle s'arrêta. Elle n'irait pas, elle ne pouvait pas, elle était enceinte. Elle pouvait risquer sa vie, mais elle n'avait aucun droit de risquer celle de son enfant. Bon sang, elle allait devenir mère et l'un de ses premiers actes en tant que telle serait de rester derrière ce foutu rocher en regardant son coéquipier se faire descendre. Le fusil tira à nouveau. Une détonation distante mais aux conséquences proches. Sal se laissa tomber à terre. Kimberly ouvrit le feu. Ses collègues l'imitèrent, baroud d'honneur contre un ennemi invisible. À côté d'elle, Quincy respirait bruyamment, une main sur l'épaule de Rainey, l'autre sur le bras de Kimberly, tout en scrutant les arbres avec concentration. « Kimberly, commença-t-il. « Vas-y, dit-elle, les dents serrées. Aide-le, bordel, il faut que quelqu'un l'aide. » Quincy s'élança. Et Kimberly recommença à tirer pour le couvrir, consciente de la présence de Rainey, crispée à côté d'elle, et des larmes qui coulaient maintenant sur leurs joues à toutes les deux. Un autre tir retentit juste au moment où Quincy arrivait près de Sal. L'agent du JBI tressaillit, mais ne tomba pas. Quincy prit Harold par le bras droit, Sal attrapa le gauche. Ils se mirent à courir, le corps tout mou d'Harold brinque-ballant sur le sol inégal. Juste au moment où Kimberly pensait qu'ils allaient peut-être y arriver, que l'héroïsme allait bel et bien l'emporter, un autre tir retentit et Sal tituba vers la gauche avant de s'effondrer. Kimberly vit vaguement le shérif Duffy se lever de derrière un tronc d'arbre couché. Crosse du fusil calé contre l'épaule, viser un éclair qui avait miroité au loin, appuyer sur la détente. Le coup de fusil, le sursaut de son corps massif qui absorbait le recul. Puis Quincy tira Harold en sécurité et Rainey prit Sal par les épaules pour le guider jusque derrière le rocher. Duff se remit à l'abri. Enfin, le silence. Inquiétant, retomba sur la forêt. L'épaule d'Harold était mal en point. Kimberly déchira sa chemise pour essayer d'enlever la terre et les débris de chair déchiquetés. Le pouls d'Harold était irrégulier, ses yeux révulsés. S'il ne recevait pas des soins sans délai, il allait y rester. Sal s'adossa au rocher en se tenant le côté. Rainey avait écarté sa chemise blanche et découvert une profonde entaille sur le flanc gauche de sa cage thoracique. La plaie semblait douloureuse, mais tout en étant relatif, il allait bien et le savait. « Il nous faut le matériel des premiers secours », murmura Kimberly. « Des bandages, du sérum physiologique, une solution antiseptique, tout est dans les sacs. »« Où sont-ils ?» demanda tout de suite Quincy. D'un signe de tête, Kimberly désigna l'autre côté du rocher. Son père évalua la situation et grimaça. « Ça va pas être facile », observa-t-il. La plupart des sacs se trouvaient encore dans la clairière, à une bonne vingtaine de mètres de là, à découvert. « Il faut faire quelque chose parce que l'état d'Harold empire à vue d'œil et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une ambulance déboule dans la forêt. »« J'y vais », dit Sal qui cherchait déjà à se relever. « Oh, tais-toi et assieds-toi. Tu t'es déjà assez couvert de gloire pour cet après-midi, il faut en laisser aux autres. » Sal essaya de prendre l'air vexé, mais, ce qui prouvait à quel point il avait mal, resta assis. « Tu ne vas pas. Non. Moi, je joue les Florence Nightingale, ce qui laisse le rôle de John Wayne à papa ou à Rainey. »« On va y aller ensemble, » décréta Rainey. « Avec un peu de chance, le gars ne sait pas se décider et ça le ralentira d'avoir deux cibles. » Kimberly haussa un sourcil pour faire savoir ce qu'elle pensait d'un tel raisonnement, mais ne protesta pas. Elle roula son imperméable pour en faire un coussin, qu'elle cala sous les pieds d'Harold, puis mit deux doigts dans sa bouche et siffla. Docilement, Rachel sortit une tête de derrière l'arbre. Kimberly l'informa de leur stratégie par une série de gestes de la main. Rachel hocha la tête, et peu à peu, le plan fut communiqué d'un agent à l'autre. Lorsque Rachel reparut, Kimberly compta à rebours sur une main. Au moment où son doigt se ferma, Quincy et Rainey s'élancèrent à découvert et les agents dans la forêt ouvrirent à nouveau le feu. 5, 6, 7, 8. Rainey et Quincy arrivèrent au sac. En attrapèrent un avec chaque main. 10, 11, 12, 13. Coururent vers la sécurité du rocher, la tête dans les épaules, les jambes pliées, essayant de faire des cibles plus petites. 14, 15, 16, Rainey et Quincy déboulèrent derrière le rocher, se jetèrent au sol, et le silence retomba dans les bois. Kimberly recommençait à respirer lorsqu'elle s'aperçut que Sal avait perdu connaissance. Alors elle ouvrit une lingette antiseptique prise dans la trousse de premier secours et la posa sur le côté ensanglanté. Sal revint à lui avec un cri, et quelque part au loin, Kimberly aurait juré entendre le rire d'un homme. « Il faut que je bouge », ne cessait de marmonner Sal. « Il faut que je redescende de cette montagne. Je le dois à ma mère. Pas juste. » Rachel avait réussi à rejoindre le rocher. Elle avait pris en main les soins d'Harold et lavé la blessure de l'agent avec du sérum physiologique avant de la recouvrir de gaz stérile. Levant les yeux, elle s'inquiéta en voyant le visage luisant de sueur de Sal. « État de choc ?» murmura-t-elle à Kimberly. « Non, » répondit Sal au responsable d'équipe en grimaçant, les dents serrées. « C'est juste du bon sens. Perdre un fils, c'est déjà assez dur comme ça. » Il se redressa pour s'adosser au rocher, le souffle court. « Tiens-toi tranquille, » le gronda Kimberly à voix basse. « Tu fais un malade épouvantable. Il est encore dans les parages, tu crois ?»« On va dire les choses comme ça. » Quand les hélicos se pointeront avec leurs gros fusils, je serai un peu plus rassurée. » Elle gardait un ton enjoué, mais Rachel et elle échangeaient des regards inquiets. La radio avait continué à crépiter jusqu'à ce que Rachel finisse par l'éteindre, de peur qu'elle ne guide le tireur vers eux. 10 minutes s'étaient écoulées sans nouvel événement, mais difficile de savoir si c'était bon signe ou non. Le tireur avait-il renoncé ou bien était-il en train de décrire un cercle dans les bois? Et était-il susceptible de surgir d'un instant à l'autre, juste dans leur dos? Quincy avait pris le Glock 40 de Kimberly, et avec Rainey, ils faisaient de leur mieux pour monter la garde. Mais il n'y avait pas à s'y tromper. Ils étaient vulnérables, car ils le savaient, ils se trouvaient sur le terrain du tireur, et non le leur. Sur la bâche là-bas, le corps décomposé avait enfin arrêté de bouger. Même les araignées avaient fui, et il ne restait plus à présent que le cadavre partiellement momifié, rappel muet de ce dont Dinekara était capable. Kimberly reporta son attention sur Sal et lui donna à boire une petite bouteille d'eau. Il semblait aller plus mal qu'elle ne s'y serait attendue avec une telle blessure, mais Rachel avait raison, c'était peut-être le choc de l'incident et la chute du taux d'adrénaline alors qu'il restait dans une situation périlleuse. « Ta mère vit toujours ?» demanda-t-elle à Sal. Elle voulait continuer à le faire parler pendant qu'elle épongeait son front et inspectait son côté. « Oui. » Elle appuya un peu trop fort sur la plaie irrégulière et il haleta. « Eh ! Désolée, de l'herbe. Et ton père ?» Je ne sais pas. » Elle enleva encore un morceau de terre. Il serra les dents. Elle l'a foutu dehors, il y a des années. Elle a finalement fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas de sa faute à elle. Qu'est-ce qui n'était pas de sa faute? Si mon frère a disparu. Il a fugué. Sal secoua la tête. Kidnappé. Il avait que 9 ans. Trop jeune pour vivre à la rue. Kimberly le dévisagea. Elle se rappela vaguement avoir déjà discuté de la famille de Sal avec lui. En même temps, répliqua-t-elle avec douceur, tu m'as déjà laissé entendre que ton père avait plutôt la main leste. Sal secoua à nouveau la tête, changeant sans arrêt de position pour essayer de soulager la douleur de son côté. Ça a empiré, après. Le vieux ne retrouvait pas son fils, il a commencé à forcer sur la bouteille. Désolé. Ouais, bon, ces choses-là arrivent. Ça fait longtemps maintenant. On sent la cicatrice, mais on ne pense pas à la blessure en dessous. Et puis, de petits détails la rouvrent. Une réplique de film. La photo d'un gamin sur un vieux vélo Huffy. Cette foutue photo d'Aaron Johnson dans le sac de Ginny. Pourquoi la photo d'Aaron Johnson? Tu veux rire? Les cheveux bruns, le visage en triangle, les yeux enfoncés. Ça pourrait être une photo de famille, tu trouves pas? Kimberly haussa les épaules. Elle ne s'était jamais vraiment attardée sur l'image d'Aaron Johnson vivant. Elle était trop occupée à le revoir mort sur le sol de sa chambre d'hôtel. Tu veux en entendre une bonne? Reprit Sal, qui semblait se remettre un peu et avait repris des couleurs. L'enlèvement de mon frère. C'est pour ça que je suis entrée dans la police. Ron Mercer, le chargé d'enquête. Il avait l'air d'un dur, tu vois. Tranquille, calme et serein. Je me suis dit que si je pouvais être aussi dur qu'un flic, il n'arriverait plus de malheur. Il sourit, grimaça de douleur et ajouta avec un rictus ironique « Raté ». Quincy s'était accroupi à côté d'eux, l'air grave. « Sal, vous êtes certain d'ignorer ce qu'est devenu votre frère ?»« 30 ans après, ouais, ma mère et moi n'avons pas trop de doutes sur son sort. » « Non, murmura Quincy, je ne suis pas de cet avis. » Alors enfin, ô merveille, ils entendirent le ronronnement des rotors au-dessus d'eux, le premier hélicoptère qui franchissait la crête de Blood Mountain. Les minutes qui suivirent furent tendues. L'hélicoptère de la brigade d'intervention essaya de faire descendre une civière, puis plusieurs officiers en armes à l'aide de cordes, tandis que Duff et les autres ouvraient l'œil pour parer une attaque qui pouvait venir de n'importe où. Puis, lorsqu'il sembla que le tireur avait renoncé à sa partie de chasse, tout le monde se précipita pour installer Harold sur la civière et l'évacuer. Après quoi, ils attendirent une demi-heure l'hélicoptère suivant qui transportait une civière pour Sal, lequel n'accepta qu'à contre-cœur de s'y laisser sangler. Kimberly fut embarquée avec lui. Faveur implicite à une policière enceinte qui la laissa à la fois soulagée et pleine d'un sentiment de culpabilité. Son père et Rainey montèrent dans le troisième hélicoptère, alors que, un à un, les agents fédéraux et les policiers du comté étaient cueillis sur la clairière et descendus au poste de commandement. La première chose que vit Kimberly, ce fut Mac, à l'intérieur du périmètre, pâle et inquiet. Puis, lorsqu'il l'aperçut, un sourire transfigura son visage et, même à 30 mètres de distance, ce sourire la toucha en plein cœur. Elle jeta un regard vers Sal, toujours sanglé sur la civière. Il leva une main en signe d'adieu. « Va le rejoindre », articula-t-il en silence. Et elle le fit. Elle courut sans hésitation, se jeta dans les bras de son mari, sentit son étreinte se refermer sur elle et sur leur bébé. Il lui murmura à l'oreille qu'il l'aimait. Et pour un instant au moins, plus rien d'autre n'exista. La nuit tomba finalement autour d'eux, tandis qu'au loin retentissaient les sirènes de l'ambulance qui emportait Harold. Rita était arrivée jusqu'à la cuisine. Elle était essoufflée, pantelante à vrai dire, comme un chien qu'elle avait vu un jour essayer de se relever sur la route après s'être fait percuter par un camion lancé à pleine vitesse. L'animal avait réussi à faire 2 mètres avant de tomber raide. Il fallait qu'elle en fasse 2 de plus. Elle avait un objectif en vue, le téléphone. Elle pourrait déclarer un cambriolage, un incendie, un viol, n'importe quoi. Si seulement elle parvenait à faire tomber ce téléphone pour composer le numéro des secours. Elle était vieille. Il viendrait pour elle. Et peut-être qu'il pourrait sauver le garçon. Pas de bruit à l'étage. Juste de temps à autre le craquement d'un vieux plancher qui gémissait sous des pas furtifs. La fille, se dit Rita, en train de traquer le gamin qui s'était mis à l'abri. Elle espéra qu'il avait choisi une bonne cachette, une qui leur permettrait de gagner du temps. Elle progressa péniblement de 20 centimètres, en se tortillant à plat ventre, sa bonne jambe la propulsant maladroitement vers l'avant, tandis que son côté blessé restait inutile. Elle sentait le lourd colt s'enfoncer dans sa cuisse. Au train où allaient les choses, elle allait probablement se tirer dessus. Mais ses doigts, privés de sang par les liens efficaces de la fille, étaient bleus depuis un moment. Elle ne pouvait rien faire pour le pistolet à l'heure qu'il était. Alors elle se contorsionna, centimètre après centimètre, les yeux rivés vers son but. Elle venait d'atteindre le bord du plan de travail, et le téléphone était comme un rêve inaccessible au-dessus d'elle. Si seulement elle pouvait trouver une chaise, peut-être s'y hisser sur les coudes, et ensuite donner un grand coup dans le téléphone avec ses mains ligotées. Une voix masculine retentit derrière elle. « Où vous croyez que vous allez comme ça ?» Rita sursauta, se retourna maladroitement vers le bruit. Elle voulait croire que c'était un voisin venu à la rescousse, mais se doutait déjà qu'elle n'aurait pas cette chance. L'homme se tenait devant elle avec une lampe torche. Et lorsqu'il releva le bord de sa casquette rouge, elle découvrit son front, couvert de plusieurs rangées d'yeux jaunes luisants.